c'est vrai que j'ai plein de choses à vous dire. Je ne sais pas si j'arriverai à tout vous dire, mais c'est peut-être pas grave. Plein de choses à vous partager qui sont en fait les résultats de recherche que je mène depuis une dizaine d'années sur ce sujet de la rénovation énergétique des copropriétés, donc d'un point de vue sociologique, avec d'abord des travaux dans le cadre de ma thèse où j'ai observé les premières rénovations de copropriétés au niveau énergétique en Île-de-France, et puis ensuite un certain nombre de travaux plutôt avec des groupes professionnels variés, que sont les syndics, évidemment, qui ont un rôle important, que sont les accompagnateurs publics, les opérateurs d'habitat également. Mais je ne suis pas le seul à travailler sur ces sujets. Il y a des sociologues comme Sylvaine Le Garec, il y a Karine Sedi qui est ici, qui m'expliquait que la chaire qu'elle coordonne a des travaux de recherche sur le sujet, donc à Grenoble. Voilà, donc on est un ensemble de chercheurs à travailler autour de ces sujets. Et donc je vais vous présenter des résultats dont on pourra discuter. Mais aussi pour dire, enfin, vous faisiez part des difficultés de passage à l'acte, etc. Enfin, moi, j'ai envie aussi de renvoyer une image un peu différente, qui est que Grenoble, c'est quand même le premier territoire à avoir mis en place un dispositif d'accompagnement comme Murmure, effectivement, 2010. Enfin, c'était vraiment pionnier, et plein de territoires ont suivi. Donc, vous avez aussi une expérience importante sur ce sujet-là. Voilà, donc je me présente en quelques mots, mais pour dire que voilà, moi je me définis un peu comme un sociologue embarqué dans la transition énergétique, donc avec un regard d'observateur, d'analyste, mais je cherche aussi à accompagner cette transition et à accompagner les acteurs à travers ces recherches que je produis. Donc je vous ai dit un peu ce que j'avais fait sur la copropriété. Mon propos va s'organiser autour de trois grandes parties, trois grandes idées. D'abord, j'essaierai de vous montrer que pour qu'une rénovation énergétique se fasse dans une copropriété, il faut qu'il y ait un jeu d'acteurs qui se mette en place. Et on verra les différents acteurs qui sont en question. Ensuite, je vous montrerai que finalement, la décision de rénovation copropriété, c'est pas un arbitrage à un instant T en fonction de critères objectifs. Hein, c'est un chemin que va suivre le groupe avec un certain nombre d'étapes à passer qui va amener un moment à ce vote. Et puis un troisième élément qui est vraiment important, c'est que pour arriver à cette décision, il y a un environnement professionnel évidemment autour de la copropriété, et que ce qui va être vraiment central pour cet environnement professionnel dont vous faites partie, c'est de se mettre dans cette posture d'accompagnement qui n'est pas forcément naturelle, en tout cas pour tous les acteurs qui gravitent autour de la copropriété. Alors, le jeu d'acteurs, vous le reconnaissez, ça c'est le jeu d'acteurs, l'organigramme classique de la copropriété. Quand on regarde ce qui se passe dans une copropriété en rénovation énergétique, on s'aperçoit que le jeu d'acteurs s'élargit énormément, qu'il y a tout un tas de nouveaux acteurs qui rentrent en jeu. Donc il y a aussi une complexité très importante. Ne prenez pas en photo tout ça, puisque ça va vous être envoyé à la suite.
Oui, je les reverserai.
Donc on voit effectivement qu'il y a une très grande diversité, et puis il y a aussi un mode de fonctionnement différent d'une copropriété qui classiquement gère l'existant, qui va se mettre en place, et c'est ça, et des relations différentes, et c'est ça que je vais vous expliciter maintenant. Et ça commence en particulier par une étincelle, si je puis dire. Très souvent, c'est ce qu'on observe et c'est ce que j'ai observé, c'est que les projets de rénovation copropriété, ils ne reposent pas sur une impulsion professionnelle, mais ils reposent sur une demande de la part des copropriétaires, et en particulier sur l'engagement d'un copropriétaire qui va se positionner finalement un peu comme un chef de projet. Et donc je les ai appelés leaders énergétiques, c'est une expression pour essayer de désigner ce copropriétaire moteur qui va passer beaucoup de temps, hein, c'est souvent très chronophage comme activité, qui sont des gens qui ont un profil bien spécifique, ce qui fait qu'on ne va pas les retrouver forcément dans toutes les copropriétés. C'est souvent des gens qui ont des convictions écologiques et ou citoyennes, plus générales. C'est aussi des gens qui ont des compétences issues de leur activité professionnelle, que ce soit plutôt technique, archi, ingé, mais aussi des compétences de gestion de projet ou de communication qui vont venir réinvestir dans leur activité en copropriété. Donc voilà, ce leader énergétique, c'est vraiment le point de départ, mais ce n'est pas suffisant, parce que la copropriété, vous le savez, c'est un collectif. Et c'est un collectif qui a l'image d'elle-même, qui se vit comme une démocratie. Je ne dis pas que c'est une démocratie, je dis qu'il y a un imaginaire démocratique de la décision en copropriété. Donc il faut que la décision ait l'apparence d'une décision démocratique, et évidemment s'il y a un leader énergétique autocrate qui s'agite dans son coin et qui cherche à tout imposer, ça ne peut pas marcher. Hein, et donc il y a vraiment tout un jeu autour de la mobilisation du collectif de copropriétaires, et ça passe évidemment par l'enrôlement du conseil syndical, donc ces copropriétaires bénévoles qui représentent les autres, parce que chacun d'entre eux a son propre réseau de voisins, parce qu'il y a un partage des tâches à organiser autour de la rénovation énergétique, parce que ça peut être très lourd à mener, parce que c'est une histoire de légitimité, et que donc le simple fait que le conseil syndical valide les actions du leader énergétique, c'est quelque chose qui va le renforcer. Dans des grandes copropriétés, on voit même se constituer une équipe projet indépendante du conseil syndical, qui va continuer à s'occuper de la gestion courante, alors que l'équipe projet, qui peut être plus ouverte à des membres du conseil, à des copropriétaires non élus, va se concentrer sur ce sujet de la rénovation énergétique. Alors, je n'ai pas parlé du syndic, mais évidemment, le syndic, c'est un acteur incontournable en copropriété et pourtant souvent contourné sur ce sujet de la rénovation énergétique. Pourquoi ? D'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'un certain nombre de copropriétés ont une relation de méfiance avec leur syndic. Et donc, du coup, le terrain relationnel n'est pas favorable à l'impliquer sur un projet de grande ampleur comme une rénovation énergétique. Les syndics ont désinvesti la gestion et l'entretien technique des immeubles. Jusque dans les années 80, il y avait un métier dans les syndics, c'était l'inspecteur d'immeubles, donc il s'occupait de tous ces aspects techniques. Ça a disparu aujourd'hui, il y a des gestionnaires de copropriété, mais il n'y a plus ces métiers-là. Et donc pour les syndics, finalement, la rénovation énergétique, c'est assez loin de leur cœur de compétence, qui est plutôt juridique, comptable. Et donc c'est déjà pas quelque chose de facile à aborder pour eux. Le deuxième point, c'est que pour un syndic, finalement, s'occuper d'une rénovation énergétique, c'est prendre un risque. C'est même prendre deux risques. Le premier, c'est que tout le travail, quasiment, il est à faire en amont de la décision. Hein, on l'a dit, pour sensibiliser, pour convaincre, pour préparer. Or, le syndic ne sera payé de ce travail-là que si la rénovation est votée. Donc, vous voyez bien que finalement, il peut y avoir des stratégies de minimisation du travail. L'autre aspect, c'est que souvent, la rénovation énergétique, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, même s'il y a des dispositifs qui font que ça le devient. Et donc, il prend le risque de se mettre à dos une partie des copropriétaires qui seraient contre et de perdre sa vache à lait, qui est le contrat de gestion. Donc, on voit qu'à l'origine, c'est pas facile, c'est pas naturel pour les syndics d'aller sur la rénovation énergétique. Pourtant, il y en a un certain nombre qui le font, et j'ai eu l'occasion de l'enquêter en travaillant sur des syndics impliqués dans des rénovations énergétiques en région Auvergne-Rhône-Alpes, donc à Lyon et sur le territoire de Grenoble. Et donc, ça m'a permis de dégager un peu un certain nombre de conditions qui font que ces syndics s'engagent. Alors, il y en a une, c'est qu'il y a des spécialistes au sein des cabinets, donc ça peut être le directeur qui s'est renseigné là-dessus, ou ça peut être un gestionnaire un peu plus investi, un peu plus carriériste, ça peut être au contraire un vieux de la vieille qui a des compétences techniques. Voilà, donc il y a cette fonction-là au sein du cabinet. Il faut que le syndic développe un certain nombre de nouvelles pratiques qui ne sont pas liées à la gestion courante. Je vous donne un exemple assez basique, mais participer à des réunions de chantier pendant un an, ça serait quelque chose que les syndics ont l'habitude de faire. Organiser des appels d'offres un peu structurés, etc. Bon, en général, les syndics ils se contentent de 3 devis. Donc voilà, il y a tout un tas de nouvelles pratiques qui se mettent en place. Une troisième condition, c'est que les syndics soient convaincus du bien fondé de la rénovation énergétique. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se positionner vis-à-vis des copropriétaires pour les travaux, mais ça veut dire qu'eux-mêmes savent que les copropriétaires ont intérêt à examiner sérieusement la question, et donc vont les pousser à faire les études, vont expliquer, etc. Donc, l'engagement finalement du gestionnaire lui-même sur le sujet est important. Et puis un dernier point, c'est que il va falloir que le syndic accepte une surcharge de travail. Il y avait dans un de ses entretiens, il y avait un syndic qui m'explique que ça correspondait à 7 ou 8 copropriétés supplémentaires d'avoir une rénovation énergétique dans son portefeuille. Et donc il faut qu'en face de cette surcharge, il y ait des bénéfices. Donc financier évidemment, mais aussi ça peut être des bénéfices symboliques en termes d'éthique du métier, de bien faire son métier, ça peut être une valorisation par la métropole par exemple, les syndics sont parfois invités à présenter des projets, etc. Ça peut être évidemment des bénéfices commerciaux, hein, puisque des copropriétés vont ensuite rechercher des syndics qui sont capables de les accompagner sur ce type de processus. Et puis un dernier acteur que je ne développe pas d'habitude, mais je trouvais ça intéressant de le développer ici, c'est les locataires. Alors je dis acteurs, mais en copropriété, les locataires, est-ce qu'ils sont vraiment acteurs puisqu'ils ne participent pas aux organes de décision finalement? Pourtant, ce qu'on voit, c'est que déjà, c'est des acteurs des relations de voisinage. Alors, vous me direz, quel rapport avec la rénovation énergétique? Moi, ce que j'ai pu observer, c'est que dans des copropriétés qui avaient mené ces projets-là, il y avait certes un processus de décision, mais il y avait aussi un processus de transformation du collectif de voisins, avec quelque chose de l'ordre de la revitalisation des liens de voisinage qui se faisaient en parallèle. On comprend aisément, c'est quand même un engagement fort, et donc il ne peut se passer que si il y a une entente globale entre les copropriétaires et qu'on est en mesure finalement de construire ensemble un projet collectif. Donc les locataires, ils sont partie prenante de ça, et ils peuvent l'être encore plus, y compris par la participation à des petits projets, je pense à du compost ou des choses comme ça. Et donc voilà, ils sont là-dedans. Ils sont aussi une porte d'entrée vis-à-vis des bailleurs, au sens où le problème que posent les bailleurs vis-à-vis de la rénovation énergétique, c'est pas uniquement qu'ils n'y auraient pas intérêt financièrement, c'est que généralement ils sont en dehors des circuits d'information du projet, puisqu'ils n'habitent pas l'immeuble et que beaucoup des informations, elles passent par la cage d'escalier, elles passent par les échanges entre les habitants. Et donc les locataires peuvent être aussi des relais vis-à-vis de ces bailleurs. Là je parle de bailleurs privés évidemment. Et puis peut-être un dernier point, c'est qu'il y a une convergence d'intérêts avec les propriétaires habitants, hein, puisque là ils sont tous habitants, et donc ils peuvent aussi faire pression sur les bailleurs à travers des réclamations. Et là je pense notamment au barrage des agences de gestion locative. On remarque que souvent dans les projets de rénovation énergétique, finalement les bailleurs privés ne sont même pas au courant du projet parce que il y a eu ce barrage, et donc voilà, les locataires aussi peuvent contribuer par leurs réclamations à faire entendre un certain nombre de problèmes qu'ils vivent en termes de charges, en termes d'inconfort, qui derrière peuvent inciter à la décision. Donc là, je vous ai présenté le jeu d'acteur. Maintenant, je vais vous parler du chemin, ou on pourrait dire de l'histoire que vivent les copropriétés en rénovation. Et si on devait le résumer en un schéma, ça donnerait ça. Alors, pareil, hein, je ne prenais pas en photo. L'idée, si vous voulez, c'est qu'en général, on le présente de manière assez fonctionnelle, en disant, voilà, il y a l'audit, ensuite il y a une maîtrise d'œuvre, ensuite il y a le vote des travaux, ensuite les travaux, etc. Ça, c'est une vision qui a sa pertinence. Moi, ce que j'aimerais vous faire sentir, c'est que finalement, cette histoire, ce processus, c'est aussi un processus politique, au sens où ce qui va se jouer, au-delà du fait de cocher les cases de l'audit, de ceci, de cela, c'est la construction, en fait, de la légitimité des porteurs de projets aux yeux des copropriétaires, qu'il y ait une confiance qui s'instaure dans ce projet. Et on peut même aller plus loin en parlant de souveraineté des copropriétaires. C'est-à-dire que, au final, il faut que ce projet, ce soit leur projet, parce que c'est eux qui vont le payer, c'est eux qui vont vivre dedans ensuite. Et donc ça peut en aucun cas être un projet imposé de l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas se réaliser en un jour et qui demande une longue durée. Hein, c'est pour ça que vous voyez que des années, alors des fois on dit ça peut se faire en 3 ans. Bon, moi j'ai jamais vu ça se faire, donc on est vraiment sur la longue durée avec un certain nombre de... Il y a un écho, non ?
Ouais.
Avec un certain nombre de phases que je vais détailler rapidement. En général, voilà les principaux déclencheurs que j'ai pu repérer. Donc c'est des obligations légales, donc c'est un audit, c'est un ravalement qui va être demandé par la mairie, par exemple. C'est maintenant aussi l'individualisation des frais de chauffage, hein, qui va amener à ce qu'on se pose la question de la rénovation. Ça peut être aussi des insatisfactions vis-à-vis du montant élevé des charges, mais aussi de l'inconfort lié à la surchauffe ou au manque de chauffage. Vous le savez, les AG sont un lieu où on peut s'engueuler beaucoup sur le réglage de la température de chauffage. Donc, sujet revenant chaque année, un jour on se dit, il va bien falloir faire quelque chose. Et puis, très souvent, c'est quand même aussi la dégradation de l'immeuble, le vieillissement de l'immeuble, la panne de la chaudière, les bouts de béton qui tombent de la façade. Il faut faire quelque chose pour le patrimoine, et donc on va finalement à ce moment-là se dire, bon bah, profitons-en pour traiter l'énergie. Je pourrais rajouter aussi les événements externes à la copro, que sont les canicules par exemple, voilà, que sont les pics du prix de l'énergie, ou parfois les COP, ou les grenelles, ou les, voilà, qui peuvent susciter un certain nombre de prises de parole ou d'engagement du fameux leader dont je parlais tout à l'heure. Les phases préparatoires, elles peuvent prendre différentes formes. Il y en a une qui revient assez souvent en chauffage collectif. C'est tout un travail autour de l'optimisation de la régulation du chauffage. Je parlais tout à l'heure des conflits autour de la température. C'est difficile de s'engager dans un projet de rénovation, dans une copropriété où tout le monde s'engueule autour des températures de chauffage. Donc il y a, ce qu'on voit souvent, c'est que le leader énergétique va s'investir sur ce sujet de la régulation du chauffage, qui était un peu laissé à l'abandon, et donc il va mettre en place un certain nombre d'actions du style désembouage, équilibrage du système de chauffage, éventuellement mise en place de robinets thermostatiques, etc. C'est des actions à bas coût, mais à résultat rapide en termes d'économie d'énergie ou de gain en confort. Et donc, par ce type d'action, il va construire finalement une certaine confiance et une certaine légitimité à agir sur ce sujet. L'audit, c'est évidemment aussi un travail, une étape préparatoire possible. Mais ce que je voulais dire sur ce sujet-là, c'est que au-delà de produire un document et un certain nombre de calculs énergétiques, l'audit, évidemment, il faut le voir comme un sorte de rituel initiatique du groupe de copropriétaires sur le sujet de la thermique du bâtiment. C'est des sujets souvent inconnus. Le fait de faire un audit, ce qui va être important, c'est pas tant le document en tant que tel que le processus d'interaction, hein, donc en français tous les échanges entre les professionnels qui vont intervenir et les copropriétaires à différents niveaux, le leader énergétique, le conseil syndical et puis ensuite le groupe de copropriétaires. Tout le monde sera à minima au courant qu'on fait quelque chose sur l'énergie, ça c'est une fonction d'engagement. On aura dû répondre à un questionnaire, voter pour l'audit. Et puis, pour le conseil syndical et surtout le leader énergétique, il va y avoir un certain nombre de notions en thermique du bâtiment qui vont passer. Et ça, c'est essentiel pour comprendre finalement pourquoi il est nécessaire de faire ce type de travaux. Donc, finalement, il y a ces étapes préparatoires. Et puis ensuite, il y a une étape de projet avec ce qu'on appelle en général de maîtrise d'œuvre, avec le projet technique et sa conception, avec une dimension qui est importante qui est la communication, et avec un plan de financement, et je vais développer très rapidement ces trois dimensions du projet. Ce que j'ai pu observer dans les cas de rénovation de copropriété, c'est une pratique architecturale qui n'a rien d'évidente, qui est, on pourrait appeler, la co-conception du programme de travaux, la conception participative. C'est-à-dire que l'architecte, les bureaux d'études ne vont pas travailler en chambre et puis arriver en nager avec un projet, est-ce que vous voulez, est-ce que vous ne voulez pas. Si on fait ça, on est sûr de se casser la gueule. Non, en fait, il va falloir chercher à ouvrir finalement la programmation et le projet et les choix à un groupe de copropriétaires volontaires. Hein, et donc c'est là où on peut parler de conception participative. Et donc ce que j'ai pu observer, c'est certaines pratiques architecturales où effectivement on organise, on produit un avant-projet, les professionnels produisent un avant-projet, et organisent une série d'ateliers avec les copropriétaires. Alors ça peut être que le conseil syndical, ça peut être un groupe beaucoup plus large, pour présenter finalement les différentes options techniques, les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles. Alors c'est assez lourd hein, de faire ça pour une équipe de maîtrise d'œuvre. C'est déjà se confronter aux copropriétaires, c'est préparer aussi des supports qui soient compréhensibles par les copropriétaires, souvent des visuels, etc. Donc c'est là aussi où ça peut être intéressant d'avoir un accompagnateur qui vient renforcer l'équipe de maîtrise d'œuvre sur cet aspect-là. Et quand on procède de cette manière, on peut observer que cette co-conception, elle développe l'adhésion des copropriétaires au projet, parce que finalement, elle va permettre d'adapter au mieux le projet et au plus juste à leurs attentes, à leurs besoins, y compris et presque surtout en dehors de la question énergétique, hein, puisque quand on va intervenir sur un immeuble, finalement, on va faire quelque chose qu'on ne fait que tous les 30 ou 50 ans, c'est-à-dire le rénover. Donc, on va inclure des dimensions d'amélioration qui vont dépasser l'énergie, en termes esthétiques évidemment, mais en termes fonctionnels, locaux, poussettes, poubelles, jardins, tout ça. Enfin, il peut y avoir plein d'aspects là-dessus. Et puis, surtout, elle va permettre, cette co-conception, d'impliquer les copropriétaires dans le projet. Donc le jour du vote, finalement, ce ne sera plus le projet de professionnel qui sera présenté aux copropriétaires, ce sera le projet des copropriétaires qui présenteront éventuellement à leur confrère ou à leur congénère. L'autre aspect très important, il me reste 10 minutes, c'est la communication. Alors la communication, en général, elle n'est pas traitée. Ou en tout cas, elle n'est pas traitée par les professionnels parce que ça sort de leur champ de compétences de base. Or, c'est l'un des trois ingrédients fondamentaux pour faire aboutir un projet. Il y a le projet technique, le financement, mais il y a cette communication. Et donc, effectivement, là, le conseil syndical, le leader énergétique, ils ont à mener une campagne de communication vis-à-vis des copropriétaires. Et donc, il y a tout un tas d'outils possibles pour ça, que ce soit mettre des lettres dans les boîtes aux lettres, que ce soit des listes de mails, que ce soit organiser des réunions, que ce soit se poster dans la cage d'escalier pour discuter avec ses voisins, le porte-à-porte, des événements de convivialité, des questionnaires, enfin voilà, il y a vraiment une diversité, il y a tout ce qu'offre le numérique également, même si on ne peut pas s'y limiter. Donc voilà, il y a vraiment cette campagne-là à mettre, et il y a aussi tout un travail de coordination à faire avec les professionnels autour de la communication. Il s'agit de se poser la question de la communication. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va dire aux copropriétaires, quand on va leur dire, comment on va leur dire, voilà, et de considérer que cet aspect-là nécessite en fait un dialogue et une préparation. Et ça ne va pas de soi. En copropriété, où le syndic envoie ses documents, les professionnels envoient leurs documents techniques, et on n'a pas forcément cette préoccupation de traduire, de faciliter la communication. Et puis, il y a certains profils qui méritent une attention particulière. On a parlé en introduction, les élus ont parlé des propriétaires modestes. Évidemment, c'est des montants de travaux qui peuvent faire peur. En même temps, on sait qu'il y a des aides plus importantes pour ces profils-là. Donc, c'est important de les rassurer là-dessus, de leur montrer aussi qu'ils seront accompagnés sur la partie dossier, parce que c'est souvent complexe. Et puis, je parlais des bailleurs privés, avec là la nécessité de les inclure dans le circuit d'information, ce qui peut nécessiter des actions particulières, de les appeler, de leur envoyer des courriers spécifiques. Sur le financement, et j'en terminerai là sur le processus, ma vision c'est que, certes, il y a le montant de la rénovation, alors 20 000, 30 000 euros, mais finalement c'est le prix d'une voiture, grosso modo. Voilà. Donc il y a aussi une histoire d'arbitrage pour les copropriétaires. Tout le monde ne peut pas se payer ce prix-là, mais il y a un certain nombre de facilités. Donc, il y a le frein du montant en tant que tel, mais le principal problème, selon moi, c'est plutôt l'incertitude en fait sur le prix que les copropriétaires auront à payer. Parce qu'il faut bien comprendre que durant tout le projet de rénovation, en fait, les copropriétaires ne savent pas combien ça va leur coûter individuellement. Et ça fait très peur. Ils ne le sauront que quelques semaines avant le vote des travaux. Or, vous avez vu qu'un projet, ça peut durer un certain temps. Donc, on leur parle d'un truc, finalement, dont ils ne savent pas combien ça va leur coûter. Voilà. Donc, il y a tout un travail à faire pour rassurer là-dessus. Donc, il y a ce que les professionnels appellent l'ingénierie financière. Donc, moi, j'aime bien ramener ça à la notion de prix psychologique. Vous connaissez tous 99 francs. Ce n'est pas pareil que 100 francs, que 100 euros. Voilà. Et donc, c'est tout ce travail que peuvent faire les professionnels, d'absorber la complexité des aides, des calculs de gains d'économie d'énergie, etc., pour présenter un reste à charge individualisé par logement ou même par copropriétaire, qui inclut à la fois les subventions, qui inclut les prêts, qui inclut les gains en termes d'économie d'énergie, voire en intégrant aussi la valeur verte, qui donc permet finalement de minimiser l'effet psychologique de dire bon ben on en a pour 1 million d'euros de travaux. C'est pas pareil de dire on en a pour 70 euros par mois. Et puis aussi une stratégie que je trouve intéressante et qui est rarement mise en avant et qui est liée au fait que les copropriétés sont pleins de ressources cachées, notamment dans la manière dont on peut valoriser les surfaces existantes. Donc là, je vous prends un cas particulier, mais ça s'applique de manière plus générale. Cette copropriété, ils avaient un Porsche, ici, qui était en fait inutilisé. Et donc, ils ont créé un appartement qu'ils ont vendu. Et avec ce prix-là, ils ont financé en grande partie le prix de la rénovation thermique. Donc, on parle pas mal de surélévation, voilà, de choses comme ça. Plus simplement, on peut, par exemple, une copropriété à Paris avait transformé le local de l'ancienne Cuvette Food en parking, revendu des parkings aux copropriétaires, ça dégage des sommes. Enfin, vous voyez cette idée que dans la copropriété, il y a des surfaces inexploitées qui peuvent faire l'objet d'une valorisation foncière et contribuer en financement, tout ça venant en plus des subventions, etc. Il ne me reste que 5 minutes pour vous présenter la dernière partie, donc plutôt cette fois autour de la posture des professionnels qui accompagnent les copropriétaires. Hein, et donc, sur ce sujet de l'accompagnement, un premier visuel pour dire que l'accompagnement, en fait, peut correspondre à des besoins différents en fonction des copropriétés, que l'accompagnement à la rénovation énergétique, ce n'est pas forcément ce qui va convenir à toutes les copropriétés. Il y a des copropriétés qui sont dans une situation qui fait que vous aurez beau leur proposer de les accompagner ou de les sensibiliser sur la rénovation énergétique, en fait, ça ne répondra pas parce qu'ils ont d'autres priorités. Hein, et donc, notamment les copropriétés qui ont des problèmes de gestion ou qui ont des problèmes de gouvernance. Et donc, ça suppose, effectivement, avant d'aller sur de la rénovation énergétique, de les aider finalement à se redresser ou à être en mesure de décider. Donc ça, c'est pour relativiser ce que je vais dire ensuite et développer plutôt sur la rénovation énergétique, qui du coup un accompagnement qui porterait là-dessus peut avoir différentes fonctions. Quand il y a déjà un leader énergétique actif, cet accompagnement ne va faire que, enfin, ça peut être bien nécessaire, mais soutenir ce leader-là, hein, donc il sera plutôt accélérateur, quand dans d'autres copropriétés où il n'y aura pas forcément ce leader, eh ben, l'accompagnement sera plutôt moteur sur la rénovation énergétique et donc demandera plus d'investissement. Deuxième notion que je voulais vous faire passer autour de l'accompagnement, c'est... On entend derrière le mot accompagnement une vision assez inter-individuelle finalement de la relation. Or, l'accompagnement d'une copropriété implique des professionnels, implique éventuellement un accompagnant qui va être en relation avec les copropriétaires, mais implique aussi que les autres professionnels, donc le syndic, la maîtrise d'œuvre, se mettent en posture d'accompagnement. Vis-à-vis des copropriétaires. Et donc, il doit bien y avoir finalement un travail de coordination entre ces professionnels avec l'accompagnant pour finalement travailler avec le collectif que représente la copropriété. Et puis, dernier point, ça c'est un schéma qui va, pour moi, résume finalement ce que j'ai ressenti en interrogeant des gens qui faisaient de l'accompagnement à la rénovation énergétique en copropriété, c'est qu'ils étaient comme cette personne-là, ils marchaient sur un fil, tout le temps à adapter leur posture pour ne pas tomber, finalement. Hein, et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait définir une bonne fois pour toutes avec des cases à remplir, etc. C'est vraiment quelque chose d'assez fin, et qui demande de s'adapter en permanence. Il y a 5 grandes tensions auxquelles les accompagnateurs de rénovation énergétique doivent s'adapter. Il y a une tension un peu centrale, hein, c'est pour ça que je l'ai mis en gros, c'est la tension entre standardisation et personnalisation. Standardisation parce que forcément l'accompagnement, il est limité en temps, il y a des contraintes financières, etc. Et en même temps, chaque copropriété est unique, et donc il faudrait personnaliser, et au sein de chaque copropriété, il y a plein de copropriétaires qui sont eux-mêmes uniques. Voilà. Donc il faut trouver un équilibre entre ces deux pôles-là. Ensuite, il y a la question de la performance énergétique, l'ambition de performance. Souvent, ce n'est pas une demande initiale des copropriétaires. Ils viennent parce qu'ils ont des problèmes de ravalement, que la chaudière est en panne, etc. Et pourtant, si on veut faire de l'accompagnement à la rénovation énergétique, il faut arriver à maintenir un certain niveau de performance dans le projet. Et voilà, il y a des arbitrages qui se font. Et donc, il faut trouver un équilibre qui se situe sans doute pas du côté de l'exemplarité pure et parfaite de la performance énergétique, mais qui se situe pas non plus dans le ravalement simple. Et donc, trouver quelque chose d'intermédiaire où on puisse embarquer un certain nombre de travaux non énergétiques, mais aussi avec une certaine ambition. Il y a la question du rythme qui est essentielle, parce que je vous disais, une rénovation énergétique, ça prend du temps, ça ne peut pas se faire en 2 ans. Donc c'est un projet en long cours et d'une certaine manière, il faut donner le temps au temps, il faut qu'il y ait un processus de maturation interne qui se passe. Mais en même temps, si on s'enlise trop, on va avoir un découragement au sein de la copropriété. Les intervenants professionnels vont commencer à perdre de l'argent et à se tendre. Et donc, vous voyez, c'est très fin comme régulation. Il faut arriver à cadencer sans brusquer. Hein, et ça, c'est vraiment un savoir-faire précis. Voilà, qu'est-ce que je n'ai pas développé? Je pense que le temps passé, vous aurez compris, avec standardisation, personnalisation, c'est peut-être les incertitudes. Il y a toujours des incertitudes qui surviennent dans un projet de rénovation énergétique, des risques. Par exemple, vous faites un super projet avec voilà, isolation, etc. Et quand vous commencez, vous vous rendez compte qu'il y a de l'amiante dans l'immeuble et que, donc en fait, il faut d'abord désamianter. Ça, c'est des surcoûts énormes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que finalement, on garde l'isolation, etc. Bon. Un autre risque, c'est le projet démarre, pas changement du président de conseil syndical, conflit dans la copropriété au niveau de la gouvernance. Autre incertitude, allez au hasard, le gouvernement décide de changer les règles, MaPrimeRénov', ceci, cela, et donc tout ce qui était valable avant ne l'est plus après. Voilà. Ces incertitudes, elles sont, j'ai envie de dire, consubstantielles de ces projets de long cours, que sont les rénovations énergétiques. On ne peut pas les supprimer, mais on peut adopter une posture prudente dans la manière de présenter les choses aux copropriétaires, et on peut également être particulièrement vigilant sur certains points. Je parlais de l'amiante. Hein, voilà, les professionnels qui ont l'expérience savent que effectivement, il faut, dès les diagnostics, être bien vigilant sur cette question. Et je termine en concluant, voilà, sur aussi le thème de la journée. Vous voyez que les copropriétaires reste le moteur principal de ces projets de rénovation. Je parlais de leader énergétique, je parlais de mobilisation collective. Une autre idée aussi qui me paraît importante, c'est que au-delà de ce processus que j'ai décrit qui concerne la rénovation, ce qui va être le terreau fertile d'une décision, c'est ce qu'on peut appeler les dynamiques habitantes. Donc c'est qu'il y a une vie sociale, c'est que la gouvernance se passe bien, c'est qu'il y a des projets dans l'immeuble d'amélioration, parfois minimes, mais vider le local vélo tous les ans, enfin, vous voyez, des choses de cette nature-là. Et que sur ces dynamiques-là, et sur la décision de rénovation, les professionnels peuvent évidemment favoriser les choses, même si ce n'est pas eux qui décident, en adaptant leur posture et en se mettant justement en posture d'accompagnement.